c'est le point d'aboutissement d'une réconciliation aussi entre deux hommes qui, quand même, il ne faut pas le nier, ont pris du temps, n'est-ce pas, entre 45 et 63 pour se rapprocher. Donc c'est un point d'aboutissement déjà, disons, d'une réconciliation précédente qui a commencé, ça aussi peut-être on ne le souligne pas assez, directement en 45. Il y a aussi eu le plan Schuman en 1950, donc il y a toute une préhistoire qu'il faut souligner, et le traité de l'Élysée est aussi le résultat de cette préhistoire sans laquelle il n'aurait sans doute pas été possible.
Quelles sont les caractéristiques de ce traité de l'Élysée? Quelles sont les grandes lignes de cette réconciliation franco-allemande à l'époque?
Le traité est surtout un traité politique. Il est beaucoup moins économique et beaucoup moins culturel qu'on ne le pense. Mais le grand résultat, c'est vraiment un symbole de la réconciliation. Et c'est qu'il a apporté très concrètement un calendrier de consultation politique très précise sur ce plan entre les sommets politiques des deux États. Le grand résultat finalement, c'est que les deux côtés acceptent l'importance d'un dialogue ininterrompu et régulier, qui d'ailleurs n'a jamais été interrompu malgré toutes les difficultés depuis.
Mais à l'époque, c'est plus la réconciliation entre deux hommes qu'entre deux peuples ?
Les deux hommes représentent à ce moment-là, c'est bien, leur peuple, c'est-à-dire à la fois avec les difficultés d'arriver à cette réconciliation, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a eu une véritable dette, n'est-ce pas ? Mais il faut voir qu'il y a eu en juillet 1960 un accord pour les victimes françaises du national-socialisme. Il y a déjà eu un processus, ça il faut vraiment le souligner, avant 1963. Mais de Gaulle et Adenauer, je pense, avec leurs hésitations et avec leur bonne volonté quand même d'arriver à une réconciliation pour de bon, représentent assez bien leur peuple à ce moment.
C'est une réconciliation entre partenaires égaux ou bien il y a une certaine disparité entre les deux partenaires de cette réconciliation?
Aujourd'hui, où on parle trop d'un leadership allemand, il faut se souvenir que l'Allemagne à l'époque était divisée et que l'Allemagne fédérale faisait à peine son entrée sur la scène internationale, qu'elle avait une armée seulement depuis 1955. À ce moment-là, la France est le partenaire fort et pas l'Allemagne.
Est-ce qu'il y a eu des ratés ou des parties non abouties de cette réconciliation?
Le traité de l'Élysée lui-même, il est précédé par une déclaration dans laquelle les deux côtés précisent que la réconciliation entre les peuples allemands et français représente un événement historique et que la relation entre les deux pays doit être remaniée fondamentalement. Mais alors qu'est-ce que l'Allemagne fédérale, RFA, fait au moment où elle ratifie le traité de l'Élysée le 15 juin 1963? Elle y met un préambule où elle souligne que la RFA compte sur le plan de la défense, mais aussi sur le plan politique et économique, sur les États-Unis, sur la Grande-Bretagne et sur l'OTAN, au point où De Gaulle lui-même a considéré, après la signature, comme semi-ratée. Donc les relations finalement entre l'Allemagne fédérale et la France restent tendues jusqu'au départ de De Gaulle en 1969. Et c'est seulement à partir des années 1980, à partir de Mitterrand, au fond, où ce qui a été contenu dans le traité de l'Élysée prend vraiment de l'ampleur. C'est seulement depuis lors où il y a véritablement la formation de liens profonds entre les deux. Donc c'était un traité pionnier, mais qui n'a pas été suivi immédiatement par les effets qu'on lui prête. C'est plutôt un point de départ presque qu'un point d'aboutissement.